Bienvenue dans le podcast Sur le champ. Enfile tes bottes, on t'emmène chez les agriculteurs qui innovent partout en France. Nous sommes Ambre et Camille, deux étudiantes curieuses et aventureuses. On aime planter des tomates, manger du fromage et conduire des gros tracteurs. Et voilà, on se pose une question. Qui sont ces héros qui garnissent nos fourchettes?
Alors direction les champs, on part un an sillonner la France à la rencontre d'agriculteurs inspirants. Laissez-nous vous embarquer dans leur quotidien le temps d'un épisode. Et d'ailleurs, les recettes générées par le projet seront reversées à l'association Solidarité Paysan. Allez, c'est parti!
Alors aujourd'hui, nous sommes sur le plateau du Larzac à Saint-Maurice-Navacelles, pour être exact. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'on vient faire ici? Ou plutôt, j'ai envie de dire, qui on vient rencontrer? Eh bien, cela fait maintenant plus de 3 semaines que nous partageons le quotidien de Nicolas Braic, un sacré personnage. Au tempérament hyperactif et un peu têtu, Nicolas a d'abord été militaire, puis éleveur de cochons et de brebis, et désormais il se concentre sur une mission de la plus haute importance, faire revivre les sols. Pour cela, il a fondé Buxor, une entreprise qui valorise la broussaille de buis au service des sols vivants. Vous l'aurez compris, on est en compagnie d'un puits de savoir, et on est très heureuse de partager cette rencontre avec vous. On va parler élevage extensif, captation de carbone, forêt, sols vivants, et j'en passe.
Donc, salut Nicolas.
Salut, bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis pendant déjà plus de 2 semaines et c'est pas fini. On va commencer par le commencement de l'histoire. Tu t'es installé dans le Larzac pour développer un élevage de porcs plein air et de brebis. Pourquoi est-ce que tu es devenu agriculteur et surtout pourquoi ici?
Mais je pense que la clé de cette installation, c'est justement l'espace. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un lieu qui offrait suffisamment d'espace. Parce que la plupart des agriculteurs s'installent toujours sur des petits parcellaires pour des questions de coûts. Et surtout, il n'y a jamais une dimension d'impact. Moi, j'avais envie de créer une ferme qui puisse être transmissible, ou au moins reproductible, et qui ait plus de positif que de négatif. Et donc, j'ai cherché un peu partout. J'ai même pensé à l'étranger, et j'ai eu la chance, grâce au répertoire d'installation, système très particulier du monde agricole, d'avoir ce domaine-là sur le Larzac où on m'a tout de suite freiné et tout de suite informé que la famille qui vendait était très compliquée et qu'il fallait faire ses preuves et qu'ils étaient très complexes. 11 frères et sœurs à l'époque. Et on passait devant une commission et les 11 frères et sœurs avaient, en plus, n'étaient pas d'accord entre eux, donc c'était juste très compliqué. Et j'ai réussi à les convaincre sur un seul point, c'est la capacité en fait à entreprendre sans limite. C'est ce qui leur manquait sur la plupart des autres dossiers, c'est qu'en fait, lorsqu'ils m'ont imposé certaines choses, j'ai dit bah ça doit être faisable. Et ça les a beaucoup rassurés quoi. Donc c'est plutôt l'idée, c'est l'espace. Pourquoi ici l'espace? Après, le climat du Larzac m'a pas fait de cadeau pendant les 10 premières années. Là, ça s'améliore. Pour le coup, le changement climatique est positif sur une zone comme le Larzac, bien qu'il y ait toujours des aléas, hein, des pics, mais le global est beaucoup plus agréable qu'il y a 10 ans. Donc c'est intéressant aussi à prendre en compte. Et puis bon, il y a aussi les méthodes qui ont fait que j'ai réussi à avoir de plus en plus d'autonomie alimentaire. Mais ça, on va y revenir, je pense.
Et quel était donc ton projet en t'installant et en quoi est-ce qu'il était particulièrement adapté à ce territoire-là?
En fait, là aussi, donc on sort d'un cursus agricole et on nous parle uniquement de gestion sur béton. Il n'y a à aucun moment une notion d'extensif et de non-bâtiment et de quels sont les espaces et les rotations nécessaires à tel et tel animal. Et donc du coup, il y a tout à réinventer, quoi. Donc je me suis plutôt basé sur ce qui se faisait il y a un siècle plutôt que ce qu'on m'a appris, parce que j'ai une formation agricole classique pour s'installer, et eh bien c'était vraiment pas quelque chose qui m'a aidé. Ça a été plutôt le contraire, ça a plutôt été un frein. On m'a tout de suite fait culpabiliser énormément de pas avoir assez ci, pas avoir assez ça, pas avoir des surfaces X, enfin la capacité en fait à rentrer les troupeaux pendant les grandes périodes hivernales, à tout voir en bâtiment, suffisamment de foin sur une réserve de grains. Et moi, ça me parlait pas du tout, ça. J'étais pas du tout là-dedans. Et c'est vrai que c'est une approche l'extensif qui est plus survie que élevage. Et ça peut être dur pour certains qui ont l'habitude de voir des animaux hyper, surgavés. Moi, je suis plutôt là à dire, il y a des périodes dans l'année où les animaux sont vraiment, se multiplient facilement. Et c'est là où on doit, comme une cueillette, récupérer les animaux qui sont viables et qui fonctionnent dans le circuit. Et le reste de l'année, il faut les aider à survivre dans ce biotope, dans les meilleures conditions possibles. Mais du coup, ça fait aussi une sélection qui donne des animaux extrêmement résistants. Pas de maladies, pas d'antibiotiques, pas de soins. Ça, c'est un bonheur sans nom parce que dans le monde de l'élevage tel que je l'ai connu, l'armoire à pharmacie, elle fait cette pièce, quoi. Elle fait 20 mètres carrés. Et c'est juste insupportable, quoi. Quand on est toute la journée à faire des soins et des soins, des piqûres, des bobos, enfin, c'est pas quelque chose qui me parlait. Je pense qu'on doit retomber un petit peu sur quelque chose de plus sain, dans le sens où pour moi, soigner à outrance, c'est pas sain. Ça donne des animaux qui, dans le groupe, ont toujours pénalisé le groupe. Et je l'ai vu, hein. Des animaux que j'ai, voilà, dans les premières années où j'ai voulu à tout prix sauver telle et telle truie, qui avait eu des problèmes aux mises bas, qui avait des problèmes récurrents, eh bien en fait elle m'a engendré des petits fragiles et il y a eu toute une conséquence très grave sur le choix de sauver un animal. Problèmes comportementaux, déstabiliser aussi le groupe parce qu'elle suivait pas, parce qu'elle avait pas
Intéressant.
le. Et ça c'est un cas, mais il y en a eu plein. Et depuis que je fais ce type de sélection à la Maine Westwild, ben c'est vraiment, ça m'a changé même l'humeur des animaux. Ils ont la niaque, quoi. C'est vraiment, c'est des warriors. Et du coup, ça fait que le matin, ils m'attendent pas, quoi. Ils font leur vie.
Il faut être des warriors parce que c'est quand même un climat pas facile, il faut le dire, le climat du Larzac.
Ben là, vous le voyez vraiment dans les meilleurs jours, hein. C'est-à-dire que, en fait, sans vouloir faire le vieux qui, ou moi, de mon temps. Il y a 10 ans, en février, c'était moins 15 pendant toute l'année, enfin pendant tout le mois, quoi. Et gel sans dégel, ça de glace dans les bacs, hein, c'est de la folie, quoi. Hein, là, c'est vraiment cool. Il fait chaud, ça n'a rien à voir, quoi.
Et justement, quand on a parlé élevage avec toi, tu as utilisé le terme agro-sylvopastoralisme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que ça englobe?
Donc, agro, c'est tout ce qui est la partie agricole. Sylvo, c'est tous les arbres. Et pastoralisme, c'est tout ce qui est troupeau extensif. Quand on assemble ces trois mots, en fait, on a un système qui a duré plus de 1000 ans ici et qui a permis à chaque génération d'augmenter à chaque fois sa part de ressources alimentaires. Il faut un petit peu aborder des choses qui sont très loin de nos vies. C'est que actuellement sur le Larzac, si on veut faire autre chose que de la brebis,
S'accrocher.
compliqué. Déjà les cochons, j'ai pris claque sur claque, mais en gros, ce qui est adapté ici, c'est la brebis. Même pas le bovin. Le bovin tient parce qu'il y a énormément de foin. Mais sans le foin, c'est très compliqué avec le bovin. La brebis, aucun souci. Et éventuellement de la chèvre, on va dire laineuse, mais pas de la chèvre laitière avec sa poil, quoi. Enfin, il faudrait vraiment comprendre qu'il y a des zones et des biotopes qui permettent de générer telle et telle ressource. Et qu'on ne peut pas avoir un raisonnement de duplicativité infinie en disant, moi j'arrive quelque part, je fais ce que je veux. Alors c'est un peu l'idée de Buxor, et on va l'aborder, c'est que on peut arriver à recréer des sols forestiers de qualité dans n'importe quelle condition, et du coup avoir un petit peu cette magie-là, mais lorsqu'on fait le diagnostic du Larzac et qu'on arrive sur le Larzac, eh bien je peux vous garantir que si vous mangez pas du mouton, il y a peu de chances que vous surviviez. Il n'y a rien qui pousse. Quand j'y suis arrivé il y a 14 ans, les patates gelées dans le sol. J'ai creusé, on a fait des profils de sort 80 cm gelés, le sol. Qu'est-ce que vous voulez faire à 80 cm gelé? La plupart des arbres ici connaissent ce problème et donc du coup rétractent complètement leur cèpe dans le plus profond possible et ils sont classés en bois mort l'hiver. Bois mort et plus rien. On prend des branches et il n'y a plus un pet de cèpe. Donc c'est une sacrée adaptabilité au biotope. On est quand même sur une confluence de deux climats qui fait que les températures tombent d'un coup. Tout ce qui est voie méditerranéenne et tout ce qui est massif central, c'est bien plus froid que sur certaines zones du massif central. C'est très étonnant. Et bien plus chaud.
Mais là, c'est le Larzac est quand même donc un biotope très adapté pour l'extensive, qui permet de d'avoir une très grande surface par animal et donc de respecter le sol, aussi parce que le prix du foncier est moins important qu'ailleurs. Mais donc l'extensive n'est pas un modèle applicable partout.
En fait, ce qui serait applicable, c'est justement de ne plus vouloir occuper uniquement les sols arables avec des cultures et des monocultures, et d'essayer de travailler donc sur les coteaux, de mettre des animaux en extensif sur les coteaux en récupérant la broussaille pour générer suffisamment de sol sur les sols arables qu'on a dégradés. Donc, je dirais plutôt que le semi-extensif est très applicable un peu partout. Le pur extensif comme ici est moins applicable. Parce qu'ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'hectare, on dit à peu près 5 à 10 brebis, ça dépend des zones, à l'année. Donc moi je vois que globalement voilà, c'est plutôt entre 1 et 3, ça dépend des années. Mais partons sur 3 brebis à l'hectare, il vous en faut quoi, quand vous avez un petit troupeau déjà, il faut
Ouais.
des hectares. Donc c'est vrai que ici c'est particulièrement rude. Par contre, il y a un contre-coup dingue, c'est que il y a un goût dingue sur la
Sur la
qualité de la
viande.
viande, parce que les animaux qui mettent du temps à trouver leur ration vont développer toute une chaîne organoleptique dans les tissus qui est bien plus complexe. Donc c'est un mal pour un bien, et c'est ce qui a fait aussi la chance de Terre Libre, enfin de ma société agricole, c'est que j'ai généré une viande qui ne pouvait pas se copier.
Et ce serait ça la solution, donc c'est de manger moins de viande, mais d'une qualité meilleure et donc plus chère.
Ça, je pense que ouais, on le dit de plus en plus, et moi, ça fait 10 ans que j'en parle. Mais en parallèle, je dirais qu'il y a aussi une, comment dire, être cohérent, c'est compliqué, c'est très lourd. Et je pense que ça serait judicieux de se poser des questions de, comment dire, d'implication aussi. Ok, je participe à soutenir ce type d'élevage, mais en parallèle, est-ce que je suis cohérent aussi sur des postes annexes, c'est-à-dire on a beaucoup de personnes qui s'achètent entre guillemets une conscience en achetant de la très bonne bouffe et tout, et qui en parallèle ont fait 7 ou 8 voyages dans les Maldives. C'est vrai que c'est très culpabilisant ce que je vais dire, mais il y a aussi à prendre en compte, ne pas se défalquer, enfin s'alléger en disant bah, moi je mange de la viande de qualité qui est produite dans des zones qui sont respectées et autres, et de l'autre côté je peux m'éclater, parce qu'en fait ces répercussions-là aussi c'est un tout. Donc c'est un peu moralisateur, mais malheureusement c'est tellement vrai. Il faut un tout petit peu cette société, elle a, on le voit hein, actuellement, elle est en pure transition, mais elle a une grosse maladie, c'est qu'elle est très très individuelle. Et c'est le plaisir et le petit touch qu'on va mettre sur son Instagram en disant bah, moi je suis allé toucher la muraille de Chine. Et ça en fait je pense que ça fait partie aussi de l'équation. Donc certes manger moins de viande, être plus cohérent, mais aussi être plus cohérent en global. Est-ce que c'est vraiment si utile d'aller toucher la muraille de Chine? Est-ce qu'on peut se poser ces questions-là? Est-ce qu'on peut juste arriver à un moment à se dire, une vie, elle est riche aussi de choses simples et d'amitié, et pas forcément de faire des milliers de kilomètres pour arriver à avoir la petite photo qui va marquer. Donc voilà, moi je suis étonné lorsque j'ai fait un dernier voyage de voir les gens complètement absorbés par leur smartphone en voyage. C'est très étonnant ça qu'on ait des sociologues doivent l'étudier d'ailleurs. En fait, les gens se déplacent, mais ils se déplacent dans leur bulle. Ils n'arrivent pas en fait à réellement vivre les choses.
À se dépayser.
Ouais. Donc voilà, l'histoire de cohérence sur la nourriture, c'est essentiel. La viande, c'est un gros gros problème. Mais ne pas diaboliser la viande à outrance. C'est-à-dire que de toute façon, ça va se tasser. Le système industriel va se tasser pour plein de raisons, notamment pour les problèmes de santé. Ce qui nous attend énormément, c'est une pandémie sur les porcins. Ça, elle est à la porte de l'Europe, tout le monde le sait. On n'en parlera pas parce que ça fait trop peur. Mais c'est bien plus grave que ce qui nous attend avec le Covid. C'est certainement l'éradication de la plupart de nos élevages industriels. La peste porcine, c'est parmi, on va dire, en vivacité, parmi les pathogènes les plus agressifs qu'on ait connus sur cette planète. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste, ça reste sous un ongle et ça vous tue des centaines de porcs. Quelques grammes ou 1 gramme sous un ongle. Donc ça a rien à voir avec le Covid.
Pas très optimiste tout ça.
Voilà. Donc sur le, non, non, juste, je vais finir. On va finir sur la partie optimiste. Juste,
J'aime bien cet esprit.
il faut, non, ce que je dirais en optimisme, c'est que les choses se régulent par elles-mêmes. Les humains vont forcément retrouver un mode de vie qui va être beaucoup plus cohérent. Et la partie d'auto-alimentation va être obligatoire. Donc du coup, tout le monde va avoir un petit peu une part d'alimentation, ça je le ressens comme ça. Et ça va vraiment être une très belle expérience enrichissante.
Des nouveaux modèles, donc forcément,
Complètement.
ont débouché. Très bien, mais changeons un peu d'angle, plus sur ton nouveau combat, qui n'est pas contre un ennemi, mais pour les sols. Un combat qui t'a donc amené à mettre un peu en pause ton élevage pour fonder Buxor et mettre toute ton énergie au service de ce projet. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans ce combat? Qu'est-ce qui t'anime là-dedans et comment est né Buxor, qui est le fruit de cette intuition?
Alors c'est un constat, on va repartir dans le constat un petit peu compliqué de l'éleveur, c'est qu'en fait en 2008, je me suis retrouvé avec le prix des céréales qui a doublé par rapport à mon installation, En gros, on était à 240, je suis passé à 500 euros tonne en bio. Vous avez un peu l'habitude de ce que c'est de faire tourner une société, enfin, on vous montre des bilans et autres. Quand vous avez des entrants qui représentent 80% de chiffre d'affaires qui doublent en moins de 3 mois, c'est juste la faillite. Ça fonctionne pas. Donc la prise de conscience a été la suivante. Je suis trop tributaire d'un système externe. Je dois à tout prix comprendre comment des fermes arrivent à avoir une vraie autosuffisance, et notamment des fermes qui en fait ont une conception, on va dire, non mécanisée à outrance ou sur des sols très arables avec une industrie. Parce qu'en fait, la facilité de l'industrie, c'est de pouvoir fournir rapidement, en traitant les sols comme un substrat, une quantité de nourriture X avec des entrants carbone, enfin pétrolifère. Et donc du coup, moi je voulais arriver à comprendre ce qui avait pu se faire ici. C'est là où j'ai passé un peu de temps, bibliothèque, archives départementales, tout ce qui se faisait, notamment sur les commanderies templières. Et j'ai eu la chance d'avoir un voisin extrêmement érudit qui m'a apporté, le matin de naissance de ma deuxième fille, un recueil de l'ensemble des travaux de ce monsieur Jean Pin. Donc Jean Pin, qui est un ingénieur des années 70, qui s'est réfugié pour des questions de taxes fiscales dans une commanderie templière, et pour se faire oublier. Et en fait, il a été obligé de se débrouiller. Et vu qu'il lisait le latin, il a eu accès à plein de documents. Et il a commencé à travailler sur ce qu'on appelle les 13 composts, dont le compost des rois, qui est celui du buis. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que là aussi, encore une fois, c'est pas une mono-essence. On fait avec ce qu'on a. Nous, il se trouve qu'ici, il y a que du buis, quasiment que du buis. Mais il y a des zones où il y a beaucoup plus d'autres essences et ça fonctionne avec tout. Alors le buis, c'est une chance folle parce que c'est un des végétaux les plus denses. Donc il génère beaucoup plus vite du sol. Et ce que les gens ne savent pas et qu'il faut leur dire, c'est que le sol se crée avec du bois. Il ne se crée pas avec des engrais, il ne se crée pas avec du fumier, il se crée avec du bois.
Comme dans une forêt où les branches tombent.
C'est bizarre parce que tout le monde dit à un moment, ah bah oui, bah comme dans une forêt. Mais en fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Et quand on les voit apporter des tonnes de fumier dans leur jardin et tel engrais chimique et compagnie, ouais, ça a passé. Non, en fait, c'est vraiment le bois qui constitue les sols. Et c'est toute cette faune, toute cette chaîne trophique de décomposition de la lignine qui va générer du sol. Donc, du coup, c'est une machine magnifique de dégradation, mais surtout de réhabilitation de la roche. En fait, on peut créer du sol partout du moment où on a une forêt, ce qui est assez magique. Et là, pour être hyper positif, pour le coup, on a une chance folle, c'est qu'on s'est pas occupé de la broussaille depuis 100 ans, et on a énormément de broussailles en Europe, même dans le monde en entier, à part les zones où ça crame tout le temps. Mais c'est une vraie chance, c'est qu'on a énormément de potentiel et de réserve en broussailles. J'entends bien. En laissant les arbres, on aurait une capacité à reconstituer l'ensemble des sols européens assez rapidement. Donc c'est une très bonne nouvelle.
Donc juste pour que ceux qui nous écoutent nous suivent toujours, Buxor, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu fais chez Buxor? C'est quoi la mission de Buxor? Et
en lien avec...
voilà, et comment ça se concrétise au jour le jour?
Buxor, c'est la capacité à moissonner le soleil.
Ah ouais. Sacré job.
C'est tout bête. Le soleil, c'est ce qui donne l'énergie vitale aux plantes pour capter dans l'atmosphère et avec la transformation des photons solaires et de générer cette lignine, hein, cette molécule complexe, qui est en fait un assemblage de gaz existants et de photosynthèse. Donc en fait, on a une plante qui, par définition, apporte plus que ce qu'elle prend. C'est ça la broussaille. Les gens savent pas ce que c'est la broussaille.
Très généreuse.
Une ronce, c'est extrêmement généreux. Caresser les ronces tous les matins. Déjà, elle vous donne des murs, ça c'est chouette. Mais en plus, elle crée du sol. Alors, c'est la pionnière avant les chênes. Hein. On dit la ronce est la pépinière du chêne. Parce qu'elle crée un substrat assez humide dans lequel les glands arrivent à percer et puis d'un coup à pousser. Donc, en fait, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises plantes. Il n'y a qu'une incompréhension du vivant. Le vivant, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Malheureusement, on est souvent, nous, un peu mort ou morbide. Hein. J'ai des pics comme ça, là, les matchs de foot avec les haut-parleurs, personne dans les tribunes et des gens. Ça m'a fait vraiment un choc cette année où je me suis dit, on est réellement dans un film de science-fiction. Ça y est, on a passé la barre. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que les gens vont d'un coup, et on le voit, hein, ils vont se poser des vraies questions, quoi. Ils vont se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas Carrefour qui fait pousser la nourriture, c'est pas, enfin, les grandes surfaces, on va pas citer de nom, mais la vraie scission, c'est où est-ce qu'à un moment, un parent n'arrive pas à expliquer ce qui se passe, ce qui fait qu'on a un légume sur une table. Il y a un truc qui s'est passé là. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a un truc qui a loupé, quoi, globalement. Parce que, à aucun moment, les personnes arrivent à comprendre qu'il y a une relation entre la quantité de matière sur un sol, sa fertilité et la capacité à nous nourrir dans de bonnes conditions. Parce que vous connaissez les problèmes des aliments creux, vous connaissez les problèmes globaux qu'on observe actuellement, de manque de nutriments, de vitamines, de sélénium, parce qu'en fait, on est arrivé à un stade où ce qu'on produit ne nous apporte plus rien. Il y a une apparence de tomate, il y a un semblant de goût, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Pareil pour les pommes et tout. Donc sur l'aspect, je dirais que Buxor, donc en fait c'est un système d'accélération des mécanismes naturels forestiers pour régénérer du sol. Et ça, ce qui est très troublant, c'est que ça passe par la captation de cette matière physiquement, donc des mains géantes qui sont au bout de pelles mécaniques.
Des grosses machines.
Voilà, des grosses machines qui vont après ciseler la matière pour avoir un coefficient, une surface de contact bien plus importante pour en fait exploser ces systèmes bactériens, fongiques et de toute la faune du sol. Et en fait, en gros, donc ça c'est Claude et Lydia Bourguignon qui m'ont aidé à le dire et d'autres, mais ce qui est assez intéressant, c'est que en gros, 1 cm de Buxor sur un sol, ça équivaut à 10 ans de forêt qui tombe sur un sol. Ça, c'est à peu près les ratios, qui est plus ou moins en fonction des stades. Mais imaginez, vous mettez 7 cm dans votre jardin. Et alors là, je vous arrête tout de suite, il n'y en a pas à vendre. Parce que ça, c'est le gros hic, et c'est un peu l'angle d'attaque qu'on a eu à un moment d'arriver à fournir tous les particuliers. Ça a été un flop et un bide terrible. Pas parce que les gens ne voulaient pas le faire, parce qu'en fait, les gens sont dans l'achat immédiat. Ils sortent de la 1-1 store avec le boîtier dans la main. Il faut que ça marche. Mais très vite, ils passent à autre chose. Donc, j'ai eu ça aussi dans la viande, hein, dans le cochon ou dans le mouton. Ils vont acheter ma viande, et puis très vite, ils vont acheter de l'industriel, mais continuer à dire qu'ils mangent que ma viande. Et ça, il faut pas du tout être pessimiste et juger ça. C'est que l'humain est comme ça. En fait, l'humain va vers la facilité. Et il se retrouve, entre guillemets, très vite dans des paradoxes qu'il ne voit même pas. Là, maintenant, moi, j'ai passé un stade. Peut-être que j'ai un discours un peu plus, on va dire, pessimiste qu'avant, mais par contre, je suis beaucoup plus serein et sain vis-à-vis de... J'ai beaucoup moins d'agressivité envers l'humain. Parce que je m'aperçois qu'en fait, il choisit toujours la facilité. Donc, si vous lui proposez quelque chose de plus accessible et de plus rapide, il va y aller. Et donc, du coup, les sols, imaginons que vous vouliez faire votre potager sur votre petite terrasse à Paris, ça, il faudra le canaliser, il faudra le rendre accessible, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est de
C'est
faire
quoi?
comprendre aux agriculteurs qu'il faut qu'ils génèrent du sol. Là, on a un vrai problème. C'est qu'en fait, les agriculteurs sont aussi dans la facilité, et qu'actuellement, le modèle qu'on leur a vendu, c'est celui de la productivité et de la monoculture, et que c'est en train de changer, on est tout à fait d'accord, mais c'est infime par rapport à la masse. Si vous regardez la quantité en hectares arables de monoculture et la quantité de fermes permaculture, biologique, tout ce que vous voulez en initiative, en termes de surface, ça va pas. Donc il faut juste être cohérent. On est, pour donner un ordre d'idée, sur les éleveurs porcins plein air extensifs. Moi, je suis 4% des bio.
Ah ouais.
Et en national, 0,04%.
C'est fou.
C'est rien.
Ouais, c'est
En
fou.
fait, quand j'avais pas mal de truies, j'étais le plus gros éleveur extensif. Je suis monté à 88 truies,
Ouais.
donc 580 porcs en permanence. J'étais un des plus gros d'Europe.
Et le travail.
Il faut recentrer. Alors que 88 truies, mais ça fait rigoler debout un élevage industriel.
C'est vrai.
Il n'y a pas de plus petits éleveurs. Enfin, il y en a des 200 truies, mais la moyenne, c'est 400 truies. Et là, on parle de 10 000 truies, 9 000 truies en Belgique, 14 000 truies au Brésil. 1,6 tonnes par minute de céréales. Une semi-remorque toutes les 1h40. Donc ça, c'est pas résilient.
Il faut pouvoir fournir, ouais.
Ça, ça fonctionne pas. Et ça génère en fait une viande qui nous rend malade. Donc c'est compliqué.
Et donc, ouais. Et donc Buxor, c'est pas encore pour les particuliers, mais il y a quand même déjà des débouchés clients qui sont, enfin quand même, il y a des, notamment sur les sols équestres, les sols vivants, dans les vignes et aussi les.
En fait, c'est très différent. Les pépiniéristes, c'est qu'on a, ouais. On a créé notre clientèle. On a apporté des solutions. En fait, qui n'était pas attendu, on a expliqué, on a fait tout ce travail-là. C'est très récent, c'est cette semaine qu'on a eu la première personne qui cherchait ce qu'on faisait. Donc au bout de, on a créé ça, enfin moi j'ai créé ça en, l'idée est de 2009, j'ai réellement créé la boîte en 2012. De 2009 à 2012, j'ai fait que des tests seuls, à la machette. Ça, je vous arrête tout de suite, tout ce qui est à la main. D'ailleurs, j'ai épuisé la plupart des personnes et la plupart des, même des amis qui voulaient m'aider. Débroussailler à la main tous les personnes actuellement qui sont à fond pour la décroissance que je respecte, ça sera pas faisable. Il faut juste l'accepter. C'est un truc.
On a essayé nous-mêmes un petit peu. Voilà. C'est quand même vite fatigant.
Mais c'est plus pas que fatigant. En fait, vous l'avez fait avec des journées de pause. Quand vous faites la même journée et que ça dure depuis 3 ans, c'est juste pas possible. C'est vraiment, c'est ce que je vous disais, hein, au début du siècle, couper des buis, c'était un travail de bagnard et on mettait les enfants pas très loin en maison de correction là-dessus. Mmh. Donc il y a vraiment cette, on va dire cette dimension que la broussaille, c'est un travail qui va prendre. Vous prenez la personne dans son potager, le jardinier, il s'occupe de ses patates, il désherbe et compagnie. L'avantage de ce type de technique, c'est qu'on a beaucoup moins d'intervention. Donc très peu d'arrosage, très peu de désherbage, ça pousse tout seul quasiment, ça peut encaisser beaucoup d'eau, très peu d'eau, donc c'est assez magique sur le papier, mais la vraie, rien n'est magique dans la vie, la vraie réalité c'est que vous allez passer 3/4 de votre temps que vous consacriez à votre potager à ramasser des brindilles. Et quand vous allez ramasser des brindilles, si vous n'avez pas un broyeur, il va vous falloir 3 à 4 ans pour avoir un truc qui ressemble à du Buxor, d'accord? Donc il vous faut anticiper de 3 à 4 ans. On sait déjà que c'est difficile d'anticiper de tremper des pois chiches la veille pour les manger le lendemain. Donc imaginez 3 à 4 ans pour générer son sol de potager.
Oui.
C'est complètement utopique.
Du coup, Buxor, pour ça, met des moyens pour cette mission. C'est des machines, des grosses machines. Et ça peut être une source de critique, forcément. Donc là, tu nous justifies l'utilisation de ces machines et... Est-ce que, du coup, c'est les machines, c'est par les machines qu'on va sauver les sols et les planètes, la planète?
En fait, c'est plutôt par la broussaille. Les machines sont une forme de captation. Si on reprend le schéma du puits de pétrole, actuellement, le pétrole est gratuit. Personne ne sait ça, mais c'est gratuit, le pétrole. C'est les coûts d'extraction, d'accord? Et la personne qui a mis son drapeau sur la terre du haut qui dit ça à moi. Donc, il y a payer une redevance à ce monsieur et il y a qu'est-ce que me coûte le baril? Il faut savoir qu'au début du siècle, on avait, 13 barils, un baril dépensé en énergie pour 13 barils récoltés. Mmh. Actuellement, on a un baril dépensé pour 1,3 barils récoltés. D'accord? Donc ça s'appelle énergie dépensée sur énergie retrouvée. Et ça, c'est dramatique actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des puits qui sont passés en dessous, qu'on maintient pour des questions de volume, mais qui en fait dépensent autant d'énergie que ce qu'ils rapportent. En quantité de pétrole. Et les gisements, on va dire classiques, sont plus là. Maintenant, si on prend la broussaille, c'est un gisement monstrueux qui se régénère tout seul et qui ne demande qu'à être récolté. Il se trouve qu'actuellement, le seul système que j'ai trouvé, c'est les pelles mécaniques qui sont alimentées par du gasoil, qui ont toute une chaîne d'entretien et compagnie, mais qui ont la capacité par chauffeur de remplacer à peu près 100 hommes. Mais surtout de pouvoir reproduire tous les jours ça. Parce que c'est le gros problème, c'est pas prendre 100 hommes qui sont là, on va faire une journée coopérative et tout, ça va être super. C'est qu'en fait, ces 100 hommes puissent tenir sur 10 ans tous les jours. Ça, c'est utopique. Si on veut, on pourra pas le faire. Mmh. Et notamment parce que même les personnes et les pays qui sont dans des pays en voie de développement classeraient la récolte de broussailles en travaux forcés. C'est-à-dire, vous prenez un Burkinabé, il vous dira, non mais t'as craqué, moi j'ai fait ça quand j'étais petit, et c'était une fois par mois. Donc voilà, si on met le feu à de la broussaille, c'est qu'en fait elle nous envahit et qu'on n'arrive pas à la gérer. Donc le feu est un des seuls systèmes, des fois, pour la tenir loin de nous, dans certains pays. Donc là, la critique qu'on peut avoir envers des grosses machines, c'est un faux problème. C'est comment on peut arriver à passer cette transition pour que cette récolte de ce matériau précieux qui est du soleil en tube, on puisse réellement le réinjecter dans un système qui doit être moins gourmand en énergie, mais surtout bien plus résilient, et donc
C'est sûr.
qui va nous générer en fait beaucoup plus de ressources. Parce qu'un tiers de la broussaille française chauffe 100% des foyers français. Moi, je l'ai validé, hein, pendant 5 ans, on s'est chauffé avec ça. Mais c'est un travail pareil, comme l'histoire du potager, monstrueux. Ça se fait pas tout seul. Les tuyaux qui pètent, les cuves en inox qui se font bouffer par les acides du bois. Il y a des choses qui sont incompréhensibles dans le vivant. Par exemple, le fait que quand on récolte 1 kilo de matière, on a à la fin 1 kilo de matière qui a moins de volume. Mais au passage, on a une quantité d'énergie phénoménale. Et là, les physiciens ne savent pas expliquer ça. Donc, il y a quand même toute une chaîne de mécanismes. Et là, cocorico ou pas cocorico, mais globalement, merci à la vie, il y a des choses à expliquer et il y a de l'énergie à mettre, à comprendre ce qui se passe. Donc, on a en fait quelque part, j'aime pas trop ce terme d'énergie libre, mais on a réellement quelque chose qui sent très bon, qui permettrait en fait de transférer du soleil, parce que moi, ça marche la nuit, ça marche quand il fait moins 40, ça marche quand il pleut énormément, ça marche quand il fait sec. C'est-à-dire que ce qui est assez génial dans ce système, c'est que on n'est pas tributaire d'un système éolien, d'un système solaire, de système on va dire de latitude. C'est assez génial, hein, comme système. Parce qu'en fait, la broussaille, c'est la seule qui arrive à capter 97% des photons solaires. On sait pas le faire, hein. Actuellement, un panneau photovoltaïque de très haute qualité, qualité spatiale, on est à 19% de rendement. Ce qu'on a, on est entre 15 et 16% de rendement. Faudra que je vérifie mes chiffres, mais c'est à peu près ça, hein, l'idée. Donc, en fait, on dépense énormément, on stocke énormément de carbone aussi dans ces panneaux solaires, et on a du mal, en fait, à le faire restituer. Et l'idée de ces grosses machines, c'est que même si elles sont, entre guillemets, dans l'inconscient et dans la compréhension très, très dure à cerner, en fait, elles existent. L'acier a été extrait. Il est toujours là, il peut être recyclé quasiment à l'infini, et la cinématique hydraulique est le meilleur rendement entre le pétrole et la fluidité. Donc, je vais dire, on a encore de belles décennies avec ce type de système.
Et justement, c'est un système quand même qui fonctionne bien parce qu'on est allé à la rencontre de maraîchers, de pépiniéristes qui justement mettent du Buxor sur leur terre et ils disaient que vraiment que c'était quelque chose qui était totalement magique, que les cultures foisonnaient, que ça avait fait renaître un sol. Qu'est-ce qui permet justement de. Enfin, qu'est-ce qui est si magique dans le buis pour justement faire foisonner un sol et permettre de. Voilà, enfin, notamment, il y avait un maraîcher qui parlait d'une extrême sécheresse et en mettant du Buxor, il a pu enfin refaire des cultures sur ses sols. D'où vient cette magie, en fait, créatrice du buis?
Alors, en fait, là, il faudrait pas se focaliser sur le buis. Il se trouve que le buis a un avantage certain, c'est qu'il est très dense et donc, du coup, il va plus vite. Et Einstein nous l'a expliqué, hein, il y a une vraie relation entre la densité énergétique, la densité et l'énergie. Donc il se trouve que vu que le buis est plus dense, il y a plus d'énergie. Mais si on prend le volet broussaille, globalement, ce qui permet en fait à ces 7 cm de couche arable sur l'ensemble de cette planète de donner on va dire une signature très étonnante dans l'ensemble des planètes qu'on a pu observer. Il y a pas de système autre, c'est qu'en fait cette couche arable, c'est quasiment l'ensemble de la vie de cette planète. Si on prend un ver d'eau ou un ver de terre vivante, ça n'a rien à voir en termes de quantité de vie, hein. Et donc du coup, plus on va vers les mécanismes qui permettent de générer cette vie, et plus le système explose. Donc en gros, un sol que vous estimez pauvre et qui va rien donner, lorsque vous lui rapportez ce qui fait qu'il devient vivant, eh ben, il y a une explosion du système. C'est ce qu'on appelle les catalyseurs biologiques. Et en fait, c'est une bombe biologique, quelque part. Vous mettez une telle tarte que le sol va exploser en vie, et plus vous abondez, et plus vous allez vers ce système, plus c'est productif. Parce que là, vous avez des personnes qui travaillent avec ça depuis quelques années. S'ils font ça pendant 20 ans, mais c'est vraiment du délire. Les terra preta qu'on a vus en Guyane, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est en fait des milliers de générations d'humains qui ont fait des buts de permacole, d'accord? Ils ont couché de la végétation, et ils ont créé du sol dans des marais qui n'étaient pas du tout cultivables, et qui sont certainement les meilleurs sols du monde. Et donc, il faut juste comprendre que c'est un système qui ne se permet pas d'être radin en quantité, qui ne se permet pas de s'oublier une année. Et donc, la magie, elle est plutôt sur pourquoi on ne nous l'explique pas. Enfin, moi, je la ressens dans ce sens-là. Comment ça se fait qu'on ait zappé cette histoire-là? Qu'est-ce qui a fait que l'humain, à un moment, a loupé le chapitre, ne serait-ce que des Gaulois? Les Gaulois avaient compris comment ça fonctionnait. Ils faisaient leur campement, cultivaient sur de la forêt qui venait de couper, énorme humus. Dès que ça produisait plus, déplaçaient le campement. Pourquoi on a très peu de villes gauloises? Parce qu'en fait, c'était des nomades forestiers. Donc, ça fait des milliers d'années qu'il y a plein d'humains qui ont compris ces mécanismes. Ils se sont oubliés et on a cru qu'avec du fumier et de la pétrochimie, on arriverait à compenser ça. Je suis désolé, le vivant marche depuis des millions d'années ici. Avec un certain mécanisme, on va pas pouvoir le court-circuiter comme ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On met 280 millions d'R&D, 280 millions d'années de R&D dans votre jardin. Trouvez une boîte qui a cette capacité-là, il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment ça l'idée.
Et du coup, quand on entend tout ça, on se dit que Buxoir, ça pourrait être la solution contre la désertification des sols. Et qu'est-ce qu'il y a comme challenge? Alors, est-ce qu'il y a un challenge financier qui fait obstacle, qui serait de mettre cette solution à la portée des agriculteurs, parce que financièrement, c'est compliqué? Ou alors, est-ce qu'il faudrait que la sphère publique s'en mêle? Il faudrait plus d'argent? Il faudrait quoi?
On a exploré plein de voies potentielles. Je pense que avant tout, malheureusement, on est encore trop tôt. C'est un peu dramatique parce que on sait ce qui a été voté à la COP21, on connaît malheureusement tous les prédicts climatiques et alimentation qui sont très très pessimistes, biodiversité. Mais en gros, l'humain a une faculté à ne pas voir la réalité jusqu'à ce qu'il mange le sol, quoi. Donc pour arriver en fait à planter une graine. Je pense qu'il y a des personnes qui m'ont déjà entendu sur France Inter, qui vont réécouter ce que vous avez fait, et ils vont se dire, ah, mais ouais, c'est vrai, il en a parlé il y a 6 ans de ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, entre-temps? Pas grand-chose. Et moi, j'ai un petit peu dit ça, et je pense que ça peut être perçu agressif, mais à des conférences et tout, j'ai dit, la chance, c'est que le pouvoir, il est dans vos mains. En fait, nous, on s'égosille, on s'agite toute la journée, et Dieu sait que c'est dur.
Des grosses journées.
Ouais, des très grosses journées, tout le temps, et c'est dur. Mais je pense qu'avant tout, les personnes ont la capacité de faire changer les choses par un seul déclic, où en fait, ils disent, mais pourquoi on n'aide pas ça? Pourquoi? Moi, je veux une agriculture qui fait que quand je mange une patate, une tomate, un topinambour, n'importe quoi, je veux que mes petits-enfants puissent la manger aussi. Comment on fait ça? Eh bien, en fait, c'est un peu ce que Colin Serrault a dit, c'est le boycott des choses qui ne sont pas favorables envers ça. Ça, c'est extrêmement efficace. C'est tout bête. Vous allez dans des rayons. Si ça vous convient pas, vous boycottez. Et le boycott, en fait, c'est plus puissant que de catalyser. En fait, si vous voulez, quand des gens achètent... imaginons, je vends 100 agneaux cette année. Quand j'ai vendu mes 100 agneaux, j'ai touché 100 personnes. Quand il y a 1 million, 100 millions de personnes qui boycottent un agneau industriel qui a jamais vu un rayon de soleil, c'est beaucoup plus puissant. Donc en fait, je pense que la prise de conscience est à ce niveau-là. Et lorsque les gens vont commencer à se dire « Ouais, mais ok, on boycotte ça, mais qu'est-ce qu'il y a en face ?» Et ben là, les choses se créent. Parce qu'en fait, il y a des moyens, il y a énormément d'argent, il y a énormément de volonté, mais les gens ne se sont pas mis, on va dire, en réseau de façon constructive. Ils sont plutôt dans la recherche personnelle de la quête du toujours, du paraître bien et propre. Ça, c'est un petit peu, c'est encore trop personnel. Moi, je mange bio, je fais du sport, je fume pas, je fais pas de voyage, et c'est super, il faut continuer. Mais en parallèle, il faut regarder pourquoi celui qui vit dans un HLM bouffe des knackis, et qu'il a une mauvaise mine, et pourquoi il est malheureux, et pourquoi lui, il descend dans la rue. Eh bien, tout ça, en fait, ça fait partie du même paradoxe, c'est que les personnes qui sont dans une recherche instantanée de confort et de bonheur ne peuvent pas catalyser des systèmes qui vont permettre de constituer suffisamment de ressources pour partager avec tous. Donc il faut un petit peu partager son assiette. C'est très dur, hein. Moi je suis tout à fait conscient avec ça. Nous, par exemple, en faisant de l'accueil et en essayant de consommer moins et d'être plus résilient, on s'est aperçu qu'il y avait aussi une grande part de ce qu'on avait qu'on devait redistribuer instantanément. Mais ça, en fait, c'est un bonheur. Mais c'est très dur à comprendre. Mais c'est une forme d'abandon. Maintenant, on va dire, l'acte primordial. Je pense que le système tel qu'il est politiquement est très verrouillé. On est là pour 5 ans qu'on est président et on n'a pas la capacité à lancer des projets de fond sur des restructurations lentes. Par exemple, même si Macron voulait relancer la gradation des sols massive, il y a de fortes chances que celui d'après casse les contrats et bloque. Et c'est un peu les discussions qu'on a pu avoir avec Nicolas Hulot et autres. C'est que il s'est senti complètement verrouillé dans ce système et incapable de pouvoir faire réellement de l'action durable. Et ça, c'est très, très, très frustrant. Qu'on sait, en fait, la difficulté que c'est d'atteindre le pouvoir et de s'apercevoir qu'en fait, le pouvoir, il n'est pas là. Le pouvoir, il est chez l'habitant dans le boycott. Réparer sa machine à laver. Il y a plein de formes qui vont faire que il y a des choses qui peuvent changer énormément. Il y a des équilibres qui peuvent se faire. Il y a des super tankers qui vont plus partir. Parce qu'en fait, en réparant sa machine à laver, ben, on va peut-être pas faire traverser encore un truc. Il y a en fait tout un mécanisme qu'on ne voit pas, qui est sous-jacent et qui va faire qu'en fait, ce genre d'initiatives vont être tout de suite, mais alors encensées à un point. On pourra pas suivre. En fait, ici, ça sera centre de formation. Il y aura, je pense, réellement des gens comme Elon Musk ou d'autres qui vont à tout prix vouloir développer des harvesting stones ou des, je sais pas quel nom on donnera, mais en gros, moissonneurs de soleil. Et je pense que ça va être un Eldorado, non seulement d'opportunistes, et pourquoi pas, parce que les opportunistes, en fait, ont fait aussi beaucoup de catalyseurs. Il faut savoir que Rockefeller, lorsqu'il a présenté le pétrole, on lui a craché dessus, hein. Pourtant, le pétrole, il ne faut pas cracher dessus. C'est une ressource en densité énergétique qui est phénoménale, qui fait qu'on est tous là et que vous avez des écouteurs sur les oreilles, qu'on a des micros. C'est magnifique. Il faut pas diaboliser les choses. Il faut absolument être constructif et se dire, OK, si la fin du pétrole arrive, et ça s'avère, quels sont les mécanismes pour que cette transition soit la moins douloureuse possible? Et que si c'est un jour dans un musée, en disant, regardez, on fabriquait tout ça avec le pétrole, eh bien, ce soit une très très bonne nouvelle. Mais surtout, ne pas rentrer dans un système où, en fait, il va y avoir un choc civilisationnel, où les gens vont plus savoir où ils habitent et vont être complètement dans la peur de manquer personnellement. Ça, c'est le gros gros souci. Et moi, là-dessus, je rejoins plein de travaux, dont Pablo Servigne ou Aurélien Barraud. C'est que la capacité, en fait, à se dire qu'avec moins, on a plus. Idrissa Berkane, qui a aussi été décrié, mais qui, en fait, qui n'a, pour moi, a pas été compris, c'est que l'offre cette capacité de générer énormément avec l'intelligentsia. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on partage ensemble, on grandit tous les trois. Et ceux qui vont écouter ce podcast vont grandir aussi. Et c'est ce réseau-là qui est infini et qui crée énormément. Donc, il faut avoir un petit peu cette sagesse de ne pas vouloir tout s'accaparer. Ça, c'est très dur, ce
Faire ce
qu'actuel.
déclic. Et j'aime bien quand on parle de grands projets et de belles perspectives pour Luxor, rappeler aussi une petite anecdote qui me fait sourire. D'où vient le nom Luxor, en fait? C'est plutôt un constat assez simple, finalement.
Oui, en fait, au début, je voulais appeler ça Buxus aurum. Buxus, c'est la plante, et aurum, c'est l'or en latin. Bon, ça a été un peu trop pédant d'après mes amis. Et j'ai compressé entre Buxus et or, Buxor. Et l'or du buis, je l'ai interprété comme ça, c'est qu'en fait, les Assyriens et Sumériens, qui ont été les premiers à travailler sur les composts de broussailles, c'est les premiers à échanger cette ressource contre de l'or. Parce qu'ils avaient compris qu'en fait, ce qu'ils avaient dans leur barque, il n'y avait qu'une valeur, c'était l'or. Il n'y avait pas d'autre échange possible. Et ce qui est assez étonnant, c'est que je pense qu'en grammage, vu le prix qu'on coûte actuellement qui est exorbitant, le Buxor, c'est très cher, c'est dur de l'acquérir, mais les gens en sont tellement contents, donc ça risque de grossir. Mais la finalité, c'est qu'actuellement, je pense réellement que ça vaut de l'or. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a été assez fou pour lancer un système de récolte assez innovant, mais surtout absolument pas calqué sur la rentabilité. C'est pour ça qu'on existe. Je dirais même que les sociétés d'avenir, si elles sont trop rentables, il y a un problème. Une société d'avenir, par définition, n'est pas rentable instantanément. Et si elle le devient, c'est parce qu'en fait, elle répond à une problématique. Et c'est là où, en fait, on peut avoir ce facteur chance qui fait qu'on est dans le bon timing. Et je dis pas que Buxor est sorti de l'auberge. Je dis qu'elle est, je pense, lisière d'être dans le bon timing. J'aurais créé ça 10 ans avant, je pense que j'aurais bu le bouillon.
Là, on s'en sort un peu mieux.
Ça commence.
En tout cas, pour tout ton travail, que ce soit sur l'élevage ou sur Buxor, tu as reçu beaucoup de diplômes, de récompenses, de médailles, même la médaille de l'Ordre national du mérite. Qu'est-ce que tu as fait pour recevoir tout ça, en gros? Et qu'est-ce que tu en fais? Et est-ce que c'est juste là pour décorer ton bureau ou est-ce que tu veux emmener ça ailleurs?
Je pense que l'Ordre national du mérite, c'est un chef qui l'a lancé il y a à peu près 10 ans sur l'autonomie que je commençais à développer avec mes cochons. Ça l'a troublé et la qualité des sols. Parce qu'en fait, je sais que l'Ordre national du mérite, c'est un dossier. Et il y a toute une commission, il y a des gens, d'académiciens et autres qui se penchent sur chaque dossier. Et lorsque Nicolas Hulot l'a mis à la validation, et il est parti juste après, donc c'est François de Rugy qui l'a signé. Mais cette médaille-là, en fait, c'est un travail d'équipe. Je la ressens plutôt comme la médaille de l'équipe. Parce qu'en fait, c'est considérable, les petites mains et les personnes qui ont accompagné toute cette histoire. Oui. Et vous en faites partie aussi, parce que lorsqu'on s'immerge là-dedans, on s'aperçoit en fait de la montagne qu'on a devant soi. Et ça peut être complètement démoralisant. Et j'en ai eu beaucoup, et des gens de qualité qui ont lâché, mais c'est pas un problème. C'est même génial qu'ils aient tenu un peu. Parce que c'est certainement, on va dire, une forme d'abandon de tenir. Moi, je pense qu'il y a une forme de folie. Et je suis convaincu par ce que je fais, mais je pourrais m'y perdre. Donc, en gros, ces récompenses-là, je l'ai toujours ressenti pour l'équipe. J'essaye d'éviter la gloriole parce que c'est quelque chose qui est très néfaste. J'ai malheureusement des amis qui ont été là-dedans et qui se sont perdus par cette éloge ou par ces problèmes de, on va dire, de surplus de compliments qui font qu'on n'arrive pas à sortir et à savoir ce qui est juste. Donc la récompense dans le cadre de l'Ordre national du mérite, je pense réellement que c'est pour marquer le coup, le gouvernement qui voulait marquer le coup sur ce type d'initiative, mais qui n'a pas en face les capacités d'aider ça, ce qui est terrible. Donc il s'achète quelque part un petit point positif, mais de l'autre côté, on a tellement été déçus avec des promesses. Nous, dans le projet 4 pour 1000 qu'il y avait au niveau de l'agriculture, qui était porté par le ministre d'Agriculture Stéphane Le Foll, qu'on regardait l'ensemble des actions. Le projet 4 pour 1000, c'est en gros 0,04% de reconstruction du stock carbone dans les sols réinverse la boucle climatique. C'est juste magique, quoi.
Ça m'a envie d'avoir des
il faut le faire, quoi. Ouais. Il faut le faire. Et en fait, quand on regardait les différents objectifs et les conditions, on cochait tout. Et en fait, ça s'est quand même pas fait. Donc il faut juste comprendre que même quand il y a la bonne initiative, qu'il y a les gens qui se sont penchés dessus, qu'il y a la volonté, qu'il y avait le budget, ça l'a pas fait. Donc il faut. Là, ça a été une très grosse veste, mais c'est un très grand apprentissage. C'est qu'en fait, je me suis dit, ok, super, ça viendra peut-être d'une prise de conscience globale des personnes en général. Pour ça que je vous parle de ce genre d'initiative, et ce que j'aimerais, c'est que les gens qui écoutent ce type d'intervention se disent tout simplement qu'ils ont un très très grand pouvoir de leur côté, bien plus grand que le mien.
Ben, ça donne envie de revenir dans quelques années, voir où en est Buxor, où tu en es, s'il y a d'autres projets fous qui t'ont habité ou pas. Et en tout cas, nous, on te remercie pour ce moment et ce séjour très riche en mécanique, en jeu, en rire.
Et en apprentissage.
Et en apprentissage, bien sûr. Et donc.
Et en beau paysage.
En très, très beau paysage.
Merci en tout cas, les filles. À bientôt.
À très bientôt.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode en bonne compagnie.
Et si ce petit parcours à la femme vous a plu, vous pouvez vous abonner à Business au Bouffe pour les autres épisodes.
Ou souscrire à un abonnement cultivons-nous.tv qui diffuse nos reportages vidéo.
Et vous pouvez suivre nos aventures sur notre compte Instagram @surlechamp2020 ou notre page Facebook Sur le Champ.
Allez, ciao !